C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes vendredi 11 novembre, jour du souvenir. Et on se prépare pour de bonnes averses au cours de la soirée, puis durant la nuit aussi, puis partie de la journée de samedi. Donc, en résumé, le maximum aujourd'hui autour de 18 degrés. Les nuages vont s'installer graduellement. Les vents sont modérés et c'est ce soir vraiment que la pluie, parfois forte, va commencer. On parle dans un premier temps de 30 à 40 millimètres de pluie, pardon. Demain, samedi, des averses qui vont cesser. Un petit peu plus venteux, température stable près de 14. Dans la nuit, on a encore un peu de pluie intermittente, ainsi que dimanche, avec faible risque d'averse, mais ce qu'on note pour dimanche, c'est un retour à des températures beaucoup plus froides, on parle d'un maximum de 5 degrés. Puis d'ailleurs, au début de la semaine, même le jour, c'est à peine au-dessus de zéro. Et tout indique qu'on aura pour Montréal les premiers flocons de neige, possiblement dans la soirée de mardi, la nuit de mardi à mercredi. C'est ce qu'on prévoit. Pas d'accumulation, mais quand même quelques flocons. Et en parlant de neige, plus vous allez vers l'est du Québec, plus vous allez retrouver pour les prochains jours des quantités importantes. Je regardais la Gaspésie, je regardais Sept-Îles notamment, où il y a un mélange à partir de ce matin là de pluie verglaçante, de neige, de grésils. C'est une vingtaine de centimètres de neige prévue pour la fin de semaine. Alors c'est, disons, le premier événement météo là qui ressemble un peu à l'hiver dans ce coin-là. Avant de plonger dans la revue de presse comme telle, deux, trois choses. D'abord, c'est le jour du souvenir, je l'ai dit, et je trouve ça important de le souligner. On va le faire ce matin avec un témoignage. Mais de prendre ce moment pour se rappeler. Quand on dit se rappeler, ça veut dire aussi pour ne pas oublier des gens qui ont fait, dans certains cas, le sacrifice de leur vie, des gens qui sont ressortis de leur aventure militaire avec souvent des traumatismes, un difficile retour à la normalité. Donc, des femmes et des hommes qui ont défendu un certain nombre de valeurs à travers les époques, à travers les conflits. Ça fait déjà, ça passe vite quand même, 104 ans qu'on a cette journée, l'armistice, et également, si vous voulez, ce moment où on se rappelle de ceux et celles qui ont porté l'uniforme des forces armées canadiennes. Deuxième chose que je veux souligner, c'est aussi aujourd'hui il y a 5 ans, M. Cournoyer, qui est un personnage extraordinaire, Yvon Cournoyer, qu'on a connu par hasard, c'était un auditeur qui m'avait écrit en me disant qu'il avait reçu un diagnostic de la maladie de Lou Gehrig. Et on a fait une entrevue avec lui et il avait également pris la décision assez tôt de recevoir l'aide médicale à mourir. Parce qu'il voulait pas, c'est ce qu'il nous avait dit, être un fardeau pour ses proches. Il voulait pas souffrir non plus. Et comme on sait que c'est une maladie terrible, il a pris tous les arrangements pour, dans un premier temps, passer des moments agréables avec sa conjointe Chantal. Et finalement, il y a donc 5 ans, obtenir l'aide médicale à mourir. Et d'ailleurs, à Saint-Ignace-de-Loyola, il y a une rue maintenant qui porte son nom. Alors, je salue sa conjointe et je salue également ses amis qui sont très nombreux. Maintenant, on va regarder l'actualité du jour. Je vais commencer ce matin par 2-3 nouvelles que je vais ramasser qui concernent les fameux virus. Alors, virus de la grippe, les virus respiratoires, COVID. D'ailleurs, on va écouter le ministre Christian Dubé qui était avec nous hier, qui revenait de cette conférence des ministres de la Santé. Puis au-delà du financement, il y avait bien sûr une préoccupation là sur les pressions automnales sur les réseaux de la santé.
Les trois virus inquiètent tous les ministres de la Santé au Canada. Là. La plupart disaient tous, ça va être un de nos hivers les plus difficiles parce que la COVID n'est pas finie, puis on a les virus respiratoires, puis on a encore les influenza. Fait qu'on a trois choses là.
Donc, trois facteurs qui peuvent peser lourd. Il y a encore des taux élevés d'occupation. On peut penser, bien sûr, aux hôpitaux pour enfants, l'hôpital Sainte-Justine. J'écoutais Luc qui en parlait hier midi. Il y a beaucoup de cas d'enfants qui, malheureusement, se retrouvent à l'hôpital. Des enfants aussi qui sont peut-être pas rendus à se présenter à l'urgence, mais qui sont affectés par des problèmes respiratoires. Et là, il y a toujours ce manque de médicaments, de Tylenol, d'Advil pour les enfants. Puis même, certains médicaments dans les hôpitaux. Là, on est obligé de faire des concoctions, on est obligé de trouver des recettes pour être capable de répondre aux besoins. Ce qui amène parfois des moments de délire, comme on a pu voir hier, puis c'est parti là sur les réseaux sociaux, quand le Toronto Star a laissé sous-entendre qu'il y avait pénurie de médicaments parce que on voulait obtenir des étiquettes en français sur les produits vendus. D'abord, c'est non seulement un mensonge, mais ce qui est grave, c'est qu'il y a quelque chose d'insidieux. C'est comme de dire, à cause des Québécois francophones ou des francophones en général, on manque de médicaments dans ce pays. La raison pour laquelle c'est pas vrai, c'est qu'il est arrivé dans le passé, à quelques reprises, qu'il y a eu pénurie de médicaments et qu'on a importé des médicaments d'un autre pays avec un affichage en anglais, en espagnol, et l'affichage était ajusté ici. Et le ministre Duclos a dit, pas plus tard qu'au début de la semaine, que probablement on était pour importer des médicaments pour faire face à ce besoin. C'est pas une pénurie de matières premières. On a fait le tour cette semaine avec Benoît Morin de la QPP, là. C'est carrément une demande très, très forte. Et ça oblige même les pharmaciens à prendre ces médicaments puis les garder derrière le comptoir parce que les gens ont cette tendance un peu naturelle. C'est un réflexe de parents. Même si ton enfant n'est pas malade, de dire « je vais faire le plein, je vais aller m'en chercher ». Alors, donc, ces virus sont toujours là, pression sur le système de santé, l'urgence, et on sait que la période de fin d'année de Noël est toujours critique. Comment le mammouth va organiser les choses? J'ai hâte de voir. Est-ce qu'il y aura des ententes pour permettre un meilleur accès? Je sais pas trop. L'épuisement du personnel, le TSO dans les salles d'urgence, ce sera à voir. Puis l'autre volet, qui est repris entre autres par le National Post ce matin, mais je le vois sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre d'experts qui recommandent qu'on retourne au masque obligatoire dans les endroits publics. Notamment en commençant par les écoles. Et ça fait pas le consensus, ça fait pas unanimité non plus là. C'est des voix qui disent que actuellement les politiques de laisser-faire de la santé publique aident pas au portrait et qu'on aurait besoin de resserrer un peu. Là, on parle pas de confinement, là, on parle pas de fermer les magasins là. On parle de dire quand vous vous retrouvez par exemple à l'école, est-ce qu'on devrait pas imposer le port du masque? Est-ce que quand vous êtes dans un centre commercial, c'est un exemple, à l'intérieur, on ne devrait pas imposer le port du masque aussi. Alors, jusqu'à maintenant, il n'y a pas cette volonté de Québec de faire ça, mais disons que quand vous faites le tour un peu des commentaires, puis que vous regardez non seulement au Québec, mais ailleurs, il y a cette tendance. Parlons de la COP27. C'est une réunion importante parce qu'on discute de l'avenir. Et on arrive ce matin avec un nouveau rapport, ce sont les données les plus fraîches concernant les émissions de CO2, donc la pollution émanant des vieilles sources d'énergie, énergie fossile, le pétrole. Et ce qu'on remarque, c'est qu'après la pandémie, reprise économique, etc., les émissions ont grimpé de 1% par rapport à 2021. Et ce qui est clair, ce qui est très clair, c'est que s'il n'y a pas une réduction majeure, et ça vise surtout le transport, il n'y aura pas de voie d'évitement pour le réchauffement de la planète et ses conséquences. C'est-à-dire des événements météo extrêmes, des déplacements de population, il y a même des projections qui peuvent être faites. Et on n'est pas juste dans la futurologie, là, on est aussi dans le réel, avec des événements qu'on voit depuis les 5-10 dernières années, puis une migration environnementale qui est réelle. Donc, ce rapport sur le carbone nous dit qu'il y a certains points positifs. La Chine, ça va un peu mieux, mais pour combien de temps? Parce qu'on est encore dans des périodes de confinement assez majeures en Chine. Mais c'est sûr qu'il y a eu ce bond. Et je regardais le New York Times ce matin en disant que, de façon globale, ça crée des enjeux. Et ça arrive au moment où le ministre Guilbeault, qui est à la conférence, lui voit pas de problème à ce que les compagnies pétrolières canadiennes, notamment les compagnies qui exploitent les sables bitumineux, soit présent sous le chapeau du pavillon du Canada à la conférence. Et ils disent, on fera pas de censure, on n'empêchera pas les gens de parler. Il y a une différence entre censurer quelqu'un puis l'inviter à la maison. Et on sait qu'il y a un spin des compagnies pétrolières pour essayer de montrer le côté vert de leur démarche. On n'est pas tout à fait naïf. On comprend qu'on peut pas se priver de pétrole, mais c'est assez particulier que le ministre de l'Environnement accorde cette place à ce joueur. Puis l'argumentaire de la censure est aussi l'argumentaire de dire, ben, savez-vous, ils font partie de la solution. Peut-être vrai dans des discussions ici, mais quand tu participes à un sommet comme celui-là, pas certain que ça donne une belle image, d'autant plus que le Canada, malgré ce qu'a dit M. Guilbeault, il a pris un engagement, est un pays qui subventionne largement l'industrie pétrolière, qui fait pourtant beaucoup d'argent, et est un pays qui n'a jamais atteint ses objectifs. Fait que le gouvernement Trudeau est un gouvernement qui parle, qui parle, qui parle. C'est pas un gouvernement qui remplit vraiment des engagements. Alors, c'est pour ça que les gens sont un peu sceptiques quand on les entend. Deux nouvelles à connotation verte ce matin. Les deux, on les retrouve dans la presse. D'abord, la communauté métropolitaine de Montréal envisage de déposer donc une proposition qui toucherait l'ensemble des villes, puis on sait que c'est très large, la communauté, qui ferait en sorte que dans les 82 villes, on ramènerait la collecte des ordures à une fois aux deux semaines. Je sais qu'à certains endroits, c'est comme ça, là, mais pas partout. Et ça ferait en sorte qu'il y aurait donc 26 passages par année du camion poubelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième, l'idée, c'est pas juste de recycler, l'idée, c'est de réduire la consommation. Alors, vous avez toutes les formes qui existent, compost et autres, là, pour justement faire du camion de vidange, un élément, bien sûr, mais pas le seul élément. Et autrement dit, toute la question des sites d'enfouissement qui va représenter des enjeux majeurs là, maintenant, même si c'est dans 10 ans ou 15 ans là, que le problème réel va se poser. Alors ça, c'est la première chose. L'autre chose, ça, c'est pas pire aussi. Les îles de la Madeleine veulent imposer une taxe de 30$ pour les non-résidents qui vont se présenter à compter de l'an prochain. Il y a beaucoup de touristes, vous en faites partie. Et le problème, c'est qu'aux îles, il y a peu de choses payantes. Il n'y a pas de stationnement payant, il n'y a pas de... T'sais. Puis les gens qui vont là, c'est un séjour d'à peu près 10 jours. Puis ils vont louer une maison, par exemple. Donc, le maire par intérim dit que c'est une façon d'aller chercher des fonds. Puis il y a comme deux objectifs. D'abord, entretenir les infrastructures. Et deuxièmement, assumer le coût additionnel. Parce que quand vous avez autant de touristes qui se retrouvent là, c'est 70 000 personnes qui débarquent chaque année aux îles. Pour reprendre l'image, ça en fait de la poubelle, ça. Et il n'y a pas, mis à part, évidemment, les citoyens locaux, là, d'autres qui partagent la facture. Puis ça revient à ce fameux débat sur le financement des dépenses municipales. Un mot maintenant sur ce qui se passe aux États-Unis. C'est pas encore fini. Le tableau ce matin nous montre que c'est quand même très serré. Pour ce qui est du Sénat, ben on se retrouve avec pratiquement un nez à nez là. C'est jusqu'ici 48 sénateurs démocrates, 49 républicains. Puis il y a des boîtes de scrutin qu'il faut toujours compter. Pour ce qui est de la Chambre des représentants, c'est une avance républicaine à 211 et pour avoir la majorité, ça en prend 218. Comme nous le disait Jean-Philippe David hier matin, dans certains coins des États-Unis, c'est un décompte donc manuel et pour ne pas être taxé de fraude, on vérifie deux fois plutôt qu'une. Mais sérieusement là, il me semble que rendu à vendredi, on devrait avoir les résultats point final, mais c'est pas le cas. Et l'autre chose, surveillons du coin de l'œil ce qui se passe avec les républicains. Donald Trump est parti, puis c'est le cas de le dire, après le gouverneur de Floride DeSantis. D'abord, il a dit qu'il était un gars pas fiable, pas loyal, que parce qu'il envisage de se présenter, et M. Trump aussi pense à se présenter pour l'élection 2024, je comprends pas ça, il dit « je l'ai appuyé, moi, ce gars-là ». Puis si je commence à raconter à tout le monde ce que je sais sur lui, ça y fera pas une très belle réputation. Et aussi, M. Trump est parti dans une attaque contre la famille Murdoch, contre Fox News, contre le Wall Street Journal, contre le New York Post, en disant que ces médias d'information qu'il adorait il n'y a pas si longtemps, ces médias qui avaient soutenu la candidature de M. Trump, ben, c'était viré contre lui. Puis là, on essaie d'y faire porter le chapeau du perdant depuis mardi. Il n'est pas content. Et disons qu'il carbure assez fort, alors ça fait pas mal le tour de ça. Autre chose qu'on surveille, la baisse de l'inflation aux États-Unis. Vous avez le droit ce matin d'aller voir votre portefeuille, vos placements. Pierre-Yves m'a texté hier après-midi, dit « Si t'as envie de sourire, va jeter un coup d'œil. » Parce que l'augmentation, quand même, hier était assez spectaculaire. Ça, c'est une bonne nouvelle. La moins bonne, c'est qu'on a notre gouverneur de la Banque du Canada qui dit que pour combattre la hausse des prix, lui, il pense que la meilleure chose qui pourrait arriver, c'est qu'il y ait plus de chômage, qu'on ait une récession. Je comprends, mais on est déjà dans un marché de pénurie de main-d'œuvre, puis on cherche des gens pour combler des postes. Alors, lui, il pense que ça serait peut-être une bonne chose à faire. Rapidement aussi, Marc Tanguay, qui devient le chef par intérim du Parti libéral. Et j'ai eu beaucoup de courriels là chez IGA d'employés puis de gestionnaires là suite aux problèmes informatiques, là, supposément une tentative pour arnaquer. Ça fait déjà une semaine et on n'est pas capable de remplir les commandes là. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs supermarchés qui malheureusement ont des tablettes en partie remplies parce que ça fonctionne pas. Et il semble que il y a même des responsables de magasins qui se sont proposés d'aller chercher par toutes sortes de moyens à l'entrepôt ce dont ils ont besoin plutôt que d'attendre la livraison de IGA. Alors voilà pour nos manchettes de ce matin.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Et si on se souvient tous de cette vague de féminicides qui a secoué le Québec en 2021. Ces femmes nombreuses qui ont été assassinées, souvent dans un contexte donc de violence conjugale, c'est le conjoint ou l'ex-conjoint qui a décidé de prendre la vie de la femme qu'il a supposément aimée pendant certaines périodes de sa vie. Monique Néron nous propose une série balado qui a pour titre « Maman, arrête de mourir ». Elle est avec nous ce matin, avec aussi Sarah-Lise Harry, qui est la sœur de Rebecca Love, qui, elle, a été tuée par son conjoint. Monique, bonjour.
Bonjour, Paul.
Sarah-Lise, bonjour.
Bonjour.
Je commence avec Monique. Tu as décidé de donner la parole, donc, aux gens qui entourent ces victimes, donc les enfants, les proches, les frères, les sœurs.
En 2021, tu l'as dit, comme tout le monde, j'ai été secouée, sidérée par ce qui se passait. Tu sais, je voyais les femmes être assassinées une après l'autre. Puis déjà à l'époque, je me disais, on fait quoi là? À partir du moment où on est conscient que c'est en train de se passer, puis que ça se matérialise, cette vague-là épouvantable. Puis j'étais en train de tourner Deuxième Chance à l'époque. Une collègue, Émilie Duprat, m'a dit, on fait ça un balado. Puis là, je me suis dit, il va falloir qu'on se souvienne de ce qui est en train de se passer. Puis il va falloir aussi qu'on archive la suite. Qu'est-ce qui va rester pour ces familles-là, qu'est-ce que ça représente? Parce que la prise de conscience, règle générale, elle se génère quand on a accès à ce qui se passe. Donc, c'est pour ça qu'on a suivi trois familles sur une période d'un an. Mais dès les moments où on a réalisé que cette vague-là était en cours, on a eu l'idée d'archiver ce qui était en train de se passer. Et en cours de route, c'est là que j'ai compris qu'il y avait un chiffre, c'est ça qui m'a vraiment jeté par terre, le 40. 40, c'est 40 orphelins que la vague de féminicide de 2021 a laissé derrière.
Sarah-Lisa, votre sœur a été assassinée par son conjoint, un homme qui était dans sa vie depuis quelques mois déjà. Elle a été frappée, hospitalisée et elle est malheureusement donc décédée à l'hôpital.
Oui.
Vous êtes ce qu'on appelle une famille tissée serrée. Vous êtes combien dans la famille? Il y a combien d'enfants?
On est 6 enfants, incluant Rebecca, et il y a 14 petits-enfants. Donc, on est une grosse famille très proche. Donc, pour nous, ça nous a vraiment, vraiment frappé fort. Ça a déchiré une partie de notre unité. Donc, ça a été très, très difficile. Et c'est encore toujours très, très difficile à tous les jours.
Encore aujourd'hui?
Encore aujourd'hui.
Vous dites dans le balado, perdre sa sœur, c'est difficile. Oui. Mais perdre sa sœur dans un contexte de violence comme celui-là, là,
oui.
C'est...
Parce que, comme j'avais dit dans le balado, la mort, c'est part of life. C'est qu'est-ce qui va arriver un jour à tout le monde, quoi que ce soit une maladie ou âge. Mais de se faire, de le faire arracher dans une manière comme ça, c'est doublement difficile. Et doublement difficile à comprendre et à accepter. C'est vraiment pas quelque chose que personne veut accepter parce que ça met dans un autre contexte de douleur parce que on pense à l'autre partie de qu'est-ce qui est arrivé, comment que ça est arrivé. Puis en aimant quelqu'un comme ça, ça l'amène une autre peine hyper difficile à accepter, à comprendre. Donc pour nous, à tous les jours, on essaie de traverser, à comprendre pourquoi ces choses-là continuent à arriver.
Il y a votre frère qui dit qu'il y a une espèce de sentiment de culpabilité. J'ai pas pu protéger ma sœur. Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs? Est-ce que vous saviez qu'elle vivait là, une relation comme ça?
Vraiment pas. Puis c'est sûr que mon frère, on est 5 filles. Fait que mon frère, c'est le
protecteur.
C'est le protecteur. Puis c'est un des plus vieux. Donc, c'est sûr que juste naturellement, c'est un protecteur. Puis, Rebecca, c'est la dernière. Donc, pour lui, c'est sûr qu'il y a beaucoup sur ses épaules. Puis, interne, il en veut beaucoup. Parce que.
Votre sœur a un fils.
Oui.
Cordy,
oui.
Il y a 10 ans aujourd'hui, je pense.
Oui, il y a 10 ans.
Comment on annonce à un enfant que sa mère est décédée? Qu'est-ce qu'on lui dit, puis jusqu'où on va?
Ça, c'était vraiment quelque chose de difficile pour nous. C'est sûr que dans la situation à Rebecca, on a une couple de jours avant qu'elle passe. Donc, en famille, on a pris la décision de... Il y avait beaucoup de questions. Est-ce qu'on l'amène à l'hôpital? Est-ce qu'on lui dit? Est-ce qu'on lui laisse la voir? Puis, faut que tu comprennes que quelqu'un de 9 ans dans le temps, c'est pas quelque chose de beau à voir. Mais on se dit, plus tard dans la vie, est-ce qu'il va nous, il va regretter qu'il n'a pas pu dire bye? Est-ce qu'il va nous en vouloir? Parce que c'est comme on a pris une décision pour lui. Puis, c'est très important pour lui, pour sa future, de pouvoir comprendre et accepter aussi que plus tard dans la vie, essayer de comprendre. Fait que c'était une décision qu'on a prise ensemble. C'est sûr que c'était difficile. Au moment, c'est sûr que lui, il pensait que sa mère allait réveiller. Puis, tu sais, il y avait ça dans l'idée. Fait qu'il voulait qu'il a consulté quelqu'un qui est venu lui expliquer vraiment que maman allait pas revenir de ses blessures. Puis, une fois que il s'assit puis bien comprendre avec l'intervenante. Là, c'est là où est-ce qu'il a compris que, OK, elle va pas se réveiller puis on n'ira pas en voyage. Parce que pour lui, dans sa tête, pour lui, OK, après que maman se réveille, je pense que tout le monde va besoin d'un voyage après tout ça. Puis il se disait ça. Puis où est-ce qu'on devrait aller? On devrait aller ici. Puis il voulait qu'on
mette dans
une... Oui, c'est ça. Il n'assimilait pas qu'est-ce qui se passait.
Dans le balado, vous décrivez une scène qui arrache les larmes. Là, quand vous l'installez sur le corps de sa mère, vous prenez le bras de votre sœur puis vous lui caressez le dos.
Ça, c'était vraiment difficile. Puis même maintenant, de penser au moment, à ce moment-là. Parce que, comme j'avais expliqué dans le balado, il était vraiment, vraiment proche. Il était des meilleurs amis. Il était toujours en train d'écouter des films, tout collé ensemble. Il y avait une amitié très, très aimable. Puis, moi puis ma soeur, on s'est regardés. Puis, c'est sûr qu'on voyait dans sa face qu'il voulait juste serrer sa maman. Mais c'est sûr, dans le contexte, ma soeur elle pouvait pas. Fait qu'on a décidé ensemble de lui approcher. Puis, j'ai dit, si je prends sa main puis j'enveloppe, il va avoir les derniers sentiments que maman a serré ma main. Puis ma soeur, elle a pris son bras puis elle flattait son dos à Cordy avec son bras. Comme ça, c'était comme le dernier bye-bye, le dernier câlin. Puis il avait vraiment besoin de ça parce que c'est là où est-ce qu'il a eu ses vraies larmes de... OK, je dis bye-bye à ma maman. So.
Tu as rencontré ce petit bonhomme-là.
Oui.
On sait que c'est sa tante qui a pris charge de lui. Il vit à Toronto maintenant. Et on a l'impression qu'il y a une force de caractère pour son âge, 10 ans de sa maturité.
Une force absolument. Mais il a été tellement bien entouré. Puis c'est exactement ce qu'on explore dans le balado. Sarah Lizelle disait très bien, eux, ils ont fait ça de façon instinctive. Imaginez toutes les questions qu'on doit se poser par rapport à un enfant dans les minutes et les heures qui suivent un féminicide. Eux, ils savaient pas, il y avait pas de mode d'emploi, là. Justement, est-ce qu'on l'amène à l'hôpital? Est-ce qu'on lui laisse garder le souvenir intact de sa mère vivante ou est-ce qu'il va le regretter? Et il n'y a pas une famille qui a eu la même façon de réagir, le même contexte, mais c'est des questionnements qu'on sous-estime pas. Et Cordé, il est un petit bonhomme extraordinaire. Oui. Je suis pas inquiète pour Cordé. On le disait, famille tissée serrée, ils ont tellement bien pris soin de lui. Et dans d'autres cas, il y a certaines familles où malheureusement, il y a eu des pertes de contact avec les enfants, puis ça vient ajouter au drame. La famille Harry est extraordinaire. Ils ont été chanceux dans leur malchance d'une certaine façon. Oui. Puis c'est ça qu'on a fait aussi dans le balado, c'est qu'on a présenté des histoires avec des issues différentes et des façons de se relever et de survivre. Parce que pas de famille revenir, qui
non,
survit
il y a un cas dans Charlevoix là, qui est assez assommant là, en termes de droit. Là. Oui. L'histoire n'est pas terminée parce qu'il va y avoir un procès.
Oui.
Puis quand on dit un procès, ça veut dire revivre, apprendre peut-être des choses sur les circonstances. Il y aura exactement des témoignages et tout. Oui. D'abord, avez-vous l'intention d'aller au procès?
Oui. Toute la famille, on a beaucoup de ses amis qui ont assisté aussi à l'enquête préliminaire. Donc oui, c'est sûr que ça va être très difficile pour ma mère, très difficile pour mon père. Ma mère, à tous les jours, en pense parce que c'est de revivre et entendre qu'est-ce qui est arrivé vraiment à sa petite fille. C'est tellement douloureux, c'est tellement déchirant pour elle, mais en famille, en unis, c'est important pour nous pour être là pour Rebecca puis pour entendre puis avoir de la justice aussi pour Rebecca.
Sarah Lizelle est allée étudier en droit après, hein, elle est en train de faire des études en ce moment pour comprendre les procédures puis les vulgariser à sa famille.
Ben, wow. J'avais commencé un petit peu avant que les événements arrivent, je pense comme 2 mois, mais vraiment elle était tellement fière de moi. Donc, je fais ma technique en technique juridique. Je gradue dans le mois de mai de 2023. Mais je me suis dit que j'allais pas lâcher parce que j'allais continuer. Même si tout ça arrivait, elle était tellement fière de moi. Je dis, je vais continuer. Et je gradue en mai 2023. Puis les procès vont commencer en mai 2023. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose que...
Oui, je reviens à Monique. Bravo pour
merci.
Ça. C'est vrai que toutes les histoires sont pas identiques, mais ça soulève quand même des questions sur les droits parentaux, parce que tu racontes l'histoire qui se passe dans Charlevoix.
Oui, Caroline Labonté.
Oui, puis là, le gars est arrêté, le Vasseur, et il y a encore certains droits sur les enfants.
Il est en prison.
Il est en prison. Puis alors, tu te dis, mais à quel moment tu perds l'autorité parentale? Comment tu peux prendre des décisions? Il est pas coupable encore, là, il est accusé d'avoir tué la mère, puis c'est lui qui a l'autorité parentale.
Exact. Il continue d'avoir des décisions à prendre pour ses enfants, concernant ses enfants. Et dans ce cas-ci, ce qui est aberrant, parce qu'on va dire les choses comme elles sont, c'est que la succession est gérée par la sœur de l'accusé, la succession de la victime.
La belle-sœur de la victime.
Exactement, c'est elle qui gère la succession et qui est en charge de la tutelle et tout. Fait imaginez la frustration des proches de la victime, ce qui continue de traverser. Ça, c'est véritablement un cas où non seulement on perd sa fille, sa sœur, mais on vit des épreuves pendant l'année qui suit, qui font qu'on n'a même pas le temps d'amorcer un deuil. Carole Bailey, c'est exactement ça, son histoire.
Il faut ajouter un élément, c'est que la belle-sœur qui gère la succession a déjà été condamnée pour fraude.
Ouais.
Je veux dire que c'est déjà la belle-sœur, mais en plus, et on considère que c'est du passé, puis qu'elle a payé sa dette.
Elle a payé sa dette à la société, tout ça est expliqué, évidemment, mais c'est clair qu'à partir du moment où on a un portrait de la situation comme celui-là, ce sont des gens aussi qui sont en plein dans la procédure judiciaire. L'enquête préliminaire a débuté cet automne, on y était d'ailleurs, même sur place, il y avait des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Là. Les proches n'avaient pas été avisés qu'ils n'avaient pas le droit d'être dans la salle, donc on comprend vraiment qu'est-ce que ça représente pour eux, je pense, dans dans à travers cette aventure là. C'est important aussi de parler de ça. J'ai appris beaucoup de choses. Les antécédents là, judiciaires, Paul, ça c'est quelque chose. Si tu me permets deux secondes, il faut ouvrir la discussion là-dessus parce que dans d'autres provinces canadiennes actuellement là, il y a un dispositif dans la loi qui permet aux policiers ou à d'autres personnes d'aviser quelqu'un que son conjoint a des antécédents. Dans le cas de Myriam Dallaire, son chum qui l'a assassiné en contexte de rupture, allait à la cour pour un dossier de violence conjugale. Il disait qu'il y avait des tickets de stationnement. Dans les faits, si on avait pu aviser, parce que la famille était très, très inquiète de ce qui était en train de se passer, il y avait de la violence qui se passait dans cette maison-là, mais évidemment, un cycle de violence conjugale, la victime qui rassure toujours ses proches, on comprend, c'était tellement complexe comme situation. Mais la loi de Clare, qui vient d'Angleterre, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, maintenant, on ces dispositifs légaux, parce que j'ai posé la question à la Sûreté du Québec. Si vous le savez, là, que l'individu, actuellement, il y a des antécédents, est-ce que vous pouvez dire à sa conjointe actuelle qu'elle est peut-être potentiellement en danger, si vous constatez qu'il y a de la violence dans cette maison-là? On m'a répondu que non. Légalement, ils ne peuvent pas aviser. Donc, il y a tout ça là, qu'il faut réfléchir. On est en train de mettre des mesures en place. On est en train de mettre des escouades en place pour la violence entre partenaires intimes. Là, ça, c'est le terme qu'eux utilisent parce que le féminicide, le mot n'existe pas dans le code criminel. Réfléchissons donc à ça. Là. Je peux pas croire qu'on n'est pas capable de mettre ça en place alors que ça se passe dans d'autres provinces canadiennes.
Monique, merci beaucoup. C'est disponible maintenant là, sur Radio-Canada Audio. Et donc, le titre « Maman, arrête de mourir ». Sarah Lizan, merci beaucoup d'être venue.
Merci.
Vous avez beaucoup de courage dans les circonstances.
Merci, oui.
Merci beaucoup. Elle est la sœur de Rebecca Love Harry, qui a été malheureusement assassinée par son conjoint.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
La COP27 se déroule, vous le savez, en Égypte. Hier, le ministre de l'Environnement fédéral, M. Guilbeault, s'est retrouvé un peu dans une controverse parce que le pavillon du Canada abrite des compagnies pétrolières, notamment qui exploitent les sables bitumineux. Beaucoup de groupes de pression ont demandé à ce que ces représentants d'entreprises soient comme sortis du pavillon. M. Guilbeault a dit « on fera pas de censure ». Et ils font partie de la solution. Et puis, le Québec est représenté, entre autres, à cette conférence, par le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui est avec nous ce matin. Monsieur Fitzgibbon, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, qu'est-ce que vous faites à la COP27 exactement?
Écoutez, vraiment, faut noter qu'il y a une délégation de PME du Québec assez impressionnante. On a une grande délégation à la COP27. On a 20 entreprises, là, 40 dirigeants, une autre quarantaine de personnes on a différentes personnes, donc on est un groupe important. Donc moi, je viens ici pour aider, d'une part, les entreprises du Québec à faire les ententes, parce qu'ils peuvent aider des grands groupes dans leur effort de réduction des émissions. Il y a des grands donneurs d'ordre qui sont au Canada qui regardent aussi leur plan de décarbonation. C'est beaucoup de CEO qui sont ici. Et je regarde aussi, j'ai beaucoup de rencontres avec des gens de différents pays pour comprendre l'encadrement réglementaire, ce qui touche les taxes, les systèmes des marchés du carbone, comment les gouvernements s'impliquent pour accélérer le respect des engagements de l'accord de Paris. Donc, il y a plusieurs raisons pour ça. Ici, évidemment, mon rôle de ministre de l'Énergie rend encore ma présence encore plus pertinente.
OK, deux ou trois questions. D'abord, c'est pas un forum économique. Êtes-vous là pour faire des deals ou pour apprendre vraiment de ce qui se passe aussi ailleurs?
Les deux. C'est arrivé, par exemple, lundi soir, parce que mardi, j'étais sur un panel, en fait, et j'ai participé à différentes sessions sur l'hydrogène. Une journée complète sur ça. Donc, évidemment, dans ce cas-ci, l'hydrogène, on sait qu'au Québec, on va devoir éventuellement l'utiliser, en produire. On en fait déjà. Alors, il y avait un côté aussi de connaissances. Il y a des pays, par exemple, je regarde le Danemark, qui a 45% de sa source énergétique en éolien. Comment ils font ça? Alors, il y a beaucoup de connaissances énergétiques que je veux acquérir. Mais en même temps, les sociétés, je pense à des produits qu'on connaît, le GHG SAP, qui est dominant dans le domaine de comprendre où sont les ondes de méthane, par exemple, présentement, Brainbox, Inertium. Donc, il y a beaucoup de compagnies québécoises qui peuvent aider à solutionner des enjeux du changement climatique pour des donateurs de donations. Donc, il y a une mission aussi pour aider ces compagnies-là. Puis, j'ai rencontré quelques grandes sociétés. Donc, c'est multiple les objectifs que j'avais.
OK. Je le disais tantôt, là, la présence de compagnies pétrolières sous le pavillon du Canada, alors qu'on a un rapport là, qui est sorti dans les dernières heures qui montre que les émanations de CO2 sont en croissance là, et que ça vient des énergies fossiles. Trouvez-vous que ça a de la place, ça, des pétrolières, à une conférence sur l'énergie et les changements climatiques?
Écoutez, Je vais répondre différemment parce que je ne suis pas un connaisseur des compagnies pétrolières. Je vais répondre différemment. Vous avez entendu M. John Kerry parler mardi matin. C'était assez édifiant parce qu'il parlait, c'est l'ancien secrétaire d'État sous la présidence de M. Obama. M. Kerry parlait qu'il a raison. Il faut que les gouvernements activent la demande pour que les entreprises privées veuillent participer à cet effort qui est très colossal de réduire nos GES. Au Québec, on parle de 30 mégatonnes, par exemple, de GES qu'on doit réduire d'ici 2030. Alors, le privé doit participer à ça. Et je pense qu'il faut donner un peu de crédit aux sociétés qui ne sont pas tous des pollueuses qui respectent pas l'environnement. Oui, il y a de l'histoire. Mais je pense qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'a impressionné à la COP27, c'est qu'on a une diversité de groupes qui sont présents. On a des jeunes, on a une vingtaine au Québec. Il y a des jeunes qui représentent des sociétés civiles comme Équitaire, par exemple. Des gens du gouvernement, des administrations, des élus, des PME, des grandes sociétés. J'ai fait un panel avec quelqu'un de l'université d'Arabie Saoudite sur l'hydrogène. Alors, il y a un paquet de monde qui est ici. Je pense que la collectivité doit se mettre au rendez-vous. Et c'est collectivement qu'on va arriver à atteindre des objectifs ambitieux de 2,5 degrés de maximum par rapport à la période pré-industrielle. Alors, tu sais, je vois général ma réponse, mais je pense que tout le monde va participer à ce temps-là.
Ça, je comprends, M. Fitzgibbon, mais ce qui aussi, il faut regarder les faits. Les faits, c'est que les pays ont pris des engagements qu'ils n'ont pas respectés. Le Canada est un cancre à ce niveau-là. Deuxièmement, tu as des entreprises qui ont des discours, qui sont des discours davantage de communication puis de marketing et qui prennent pas nécessairement les décisions là sur le plan environnemental et sur le plan éthique sans qu'ils aient pas une pression. Ils font pas ça nécessairement de gaieté de cœur. Fait qu'on peut être sceptique un peu sur le genre de discours qu'on entend là-bas, non?
Peut-être, mais d'un côté, M. Hacquin, on peut voir un côté positif, là. Moi, je travaille beaucoup avec les utilitaires, les ArcelorMittal. Ces gens-là, les CEO de ces compagnies-là, veulent faire le chemin vraiment climatique. Ils veulent le faire. Et c'est sûr que la demande, le gouvernement doit attirer la demande. Par exemple, M. Charest a annoncé il y a un an qu'on avait 1,6 million de véhicules électriques au Québec en 2030, je pense que c'est pas la date exacte. Alors, les gouvernements doivent imposer des initiatives pour que la demande va s'accentuer et les sociétés n'auront pas le choix. Et si les GM doivent avoir de l'aluminium vert pour leur voiture, ben au Québec, on va en faire. Moi, je pense qu'il y a une pression, vous avez raison. Il faut travailler avec ces gens-là. Puis moi, je pense que collectivement, on peut y arriver. Et on a 30 mégatonnes à réduire d'ici 2030. Puis je vous dirais qu'aujourd'hui, les projets que moi, je suis au courant, puis je pense qu'un des devoirs qu'on va faire, M. Charest est d'accord, on va devoir faire un peu de réduction de compte éventuellement. Comment on va se rendre au moins 30 mégatonnes d'où on part aujourd'hui? Moi, je regarde les projets que je vois sur mon bureau, puis on n'est pas à 30, là, mais il y a des chiffres importants. Alors, oui, il y a eu une augmentation depuis 2-3 ans, et là, on est rendu probablement en haut de la vague, mais c'est clair qu'il faut descendre rapidement. Puis moi, je pense que, encore une fois, il faut être inclusif et non pas exclusif.
OK. Là, vous me parlez d'entreprises québécoises qui ont développé de l'expertise puis qui cherchent des clients. Est-ce qu'il y a des entreprises qui regardent l'électricité du Québec? On s'en est déjà parlé, là. Donc, une source d'énergie propre, pas trop chère et qui vous amène, encore une fois, des projets d'investissement?
Écoutez, la réponse est oui. Premièrement, vous regardez peut-être des chiffres. Il y a 44 % des émissions de GES au Québec sont sur le transport. Il y a 29 % qui sont des industries. On parle du ciment, on parle de l'acier, on parle de l'aluminium. Il est clair que les gens qui sont dans ces secteurs industriels-là regardent dans le monde où peuvent-ils décarboner pour avoir un avantage comparatif. Alors, oui, ils vont regarder le Québec, oui, ils vont regarder l'Australie, ils vont regarder d'autres pays, et moi, je pense qu'on doit travailler avec ces gens-là. Il faut être parcimonieux, il faut que les électrons qu'on va leur vendre, en guillemets, vont plus collectivement comprendre le bénéfice pour le Québec, mais oui, on peut se servir de l'énergie renouvelable, qui n'est pas seulement hydroélectrique, peut-être éolien, peut-être il y aura la bioénergie un jour, qui est plus accentuée ici au Québec ou plus disponible. Je veux dire. Alors moi, je pense que oui, il faut faire ça. Puis il n'y a rien de mauvais à ce qu'on travaille avec ces compagnies-là pour les décarboner. Donc, on va satisfaire nos objectifs de réduction importante de GES et en même temps, on va pouvoir avoir une base probablement que le fiscal tarifaire plus important, c'est qu'on ait meilleur profit parce que les produits, ultimement, vont être produits pour avoir une prime. Alors, moi, je pense que c'est une harmonie, là. Donc, on peut pas constamment voir en porte-à-faux l'économie d'énergie puis l'écologie. Moi, je pense que ça va ensemble. Ça doit aller ensemble.
Oui, j'espère qu'il n'y a pas trop d'entreprises de crypto-monnaie puis de, comme on dit, hébergeurs.
Mais ça, on a vu, c'est ça, vous l'avez vu la semaine passée. Le gouvernement, de concert avec Hydro-Québec, on a décidé que le 262 mégawatts d'un bloc qui avait été accordé en 2018 pour la crypto, le bloc des blocs de l'échelle de blocs plutôt, vont être éliminés. Alors, je pense qu'on prend les mesures à présentement pour s'assurer justement que l'électricité ou l'énergie renouvelable, parce qu'on n'a pas juste l'Hydro-Québec, l'énergie renouvelable, on l'utilise de la bonne façon. Alors, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction.
Parfait. Merci beaucoup, M. Fitzgibbon. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. C'est le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, là, quand on regarde le titre au complet, Pierre Fitzgibbon, qui se trouve actuellement donc au sommet de la COP 27 en Égypte.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Merci beaucoup. Marc Tanguay devient donc le chef par intérim du Parti libéral du Québec, par la même occasion le chef de l'opposition officielle. Il est avec nous ce matin. Bonjour, M. Tanguay.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, je veux peut-être clarifier deux ou trois choses avec vous. On a compris que vos collègues Deradji et André Fortin n'avaient pas d'intérêt pour l'intérim parce qu'ils regardent plutôt le côté permanent de la job. Est-ce que ça veut dire que vous vous renoncez à la course au leadership?
Non, écoutez, là-dessus, M. Arcand, moi, je me suis pas prononcé. Donc, c'est pas que je renonce ou que j'y adhère, c'est que la réflexion n'est pas encore faite. Pourquoi? Parce que le parti va nous dire quand la période électorale va commencer, le calendrier et tout ça. Et moi, à un certain moment donné, là, comme chef intérimaire, là, il va falloir que je me pose la question et que la réflexion se fasse. Mais pour l'instant, cette réflexion-là n'est pas faite et je n'ai pas à la faire. J'ai un mandat plus qu'à temps plein de chef intérimaire et ça, soyez assurés que c'est incompatible avec ce qui pourrait être perçu par certains comme un tremplin vers cette chefferie-là. C'est pas ça du tout. C'est de servir le caucus puis de servir les militants dans l'intervalle.
OK, ça veut dire que si jamais vous décidez de faire la grande course, vous allez quoi, vous retirer comme chef intérimaire?
Oui, je devrais démissionner à ce moment-là, comme l'a indiqué le président du parti, Raphaël Primo-Ferraro. Mais encore une fois, cette décision-là, cette réflexion-là n'est pas faite. Mais clairement, là, en résumé, il y aurait la période de chef intérimaire. Après ça, il y a un choix à faire. Et, est-ce que j'y suis ou j'en suis pas? Je fais la réflexion, je dis oui ou non. Si je dis oui, ça me tente, là, je démissionne chef intérimaire. Et ce n'est que plus tard que débuterait la période électorale. Comme ça, il n'y aurait pas, le cas échéant, là, d'avantage indu. Mais dans l'intervalle, M. Arcand, et ça, je l'ai confirmé à tous mes collègues, là, moi, là, je ne vais pas jouer de double jeu. Là, moi, c'est plus que temps plein. S'assurer qu'on soit prêt pour l'opposition officielle le 29 novembre, puis débuter une réflexion puis une relance du parti avec les instances et les militants.
OK. Avant de parler de la reprise des travaux parlementaires le 29 novembre, là, on sait qu'il y a un certain nombre d'enjeux entre les partis d'opposition. D'abord, comme chef intérimaire du Parti libéral, avez-vous ou aurez-vous des discussions avec le Parti québécois, avec Québec solidaire, pour voir si on fait des aménagements pour leur permettre d'obtenir un peu plus d'argent, un peu plus de temps à l'Assemblée nationale?
Oui, M. Arcand, les discussions ont cours depuis, je dirais, à peu près 2 semaines. On parle à tout le monde. Tout le monde parle à tout le monde, là. Et c'est précisément ça, ce dont on parle. Moi, je mise sur notre victoire collective là, pour arriver à une entente. Pour ça, évidemment, tout un chacun doit être ouvert à la discussion puis faire certaines concessions. Mais sachez que j'étais, jusqu'à hier, le leader parlementaire en charge pour mon groupe des discussions. Moi, je ne vais pas me retirer des discussions, parce que ça fait quand même un bon 2 semaines que je suis investi là-dedans. Avec la nouvelle personne qui sera leader, moi, je vais demeurer dans le dossier parce que c'est trop important. On parle de budget, on parle du processus, de la façon de faire à Québec. C'est une entente qui va être importante et qui va nous réguler pendant les 4 prochaines années.
Mais je veux juste comprendre, là. Je sais qu'il y a des discussions, là, mais est-ce que ça veut dire que... Parce qu'au début, on avait senti que Mme Anglade n'était pas très, très, disons, chaude à l'idée de permettre au Parti québécois, par exemple, d'avoir un statut différent, puis même Québec solidaire. Est-ce que vous me dites ce matin que vous êtes d'accord pour que ces deux partis d'opposition soient officiellement reconnus et que ça vienne avec les moyens?
Oui. Ben, je dois dire qu'il n'y a jamais eu de différence entre l'approche de Mme Anglade et évidemment la mienne. Son approche était la mienne. Pour ce qui est de comment sera, est-ce qu'il y aura reconnaissance ou pas, ce monsieur Arcand, je vous dirais que les quatre parties, là, on a décidé de pas commenter sur la place publique le dossier pour qu'on puisse entre nous, là, se parler sans faire de surenchère publique puis de se créer de la pression artificielle.
Non, mais attendez, monsieur Tanguat, oui. Je veux pas avoir les détails puis je comprends qu'il y a des choses qui négocient, mais sur le principe de reconnaître le Parti québécois et Québec solidaire comme parti d'opposition, avec les moyens qui vont avec, êtes-vous d'accord sur le principe?
Ça là-dessus, M. Arcand, je vous dis que ça fait partie des discussions. Et si ça fait partie des discussions, le plus loin où je peux aller pour vous répondre honnêtement, M. Arcand, là, c'est que ça fait partie des possibilités. Ça fait partie des discussions, ça fait partie des possibilités, mais je peux pas aller plus loin ce matin. Faut qu'on continue de se parler. Là. L'entente est pas terminée, là, réellement pas. Là.
OK. À partir du 29 novembre, vous êtes chef de l'opposition. Quel style vous allez offrir aux Québécois? Comment vous allez gérer ça face au gouvernement?
Bien, écoutez, nous, là, moi, je pense, M. Arcand, là, puis on se le dit à l'interne au Parti libéral, là, on a eu le dur coup de perdre notre chef, Dominique Anglade, lundi. Ça a été excessivement, je vous dirais, émotif et déchirant. Là, je pense qu'on est dans une zone où on doit être près d'un pour livrer pour les Québécoises et Québécois à la rentrée. On doit bonifier cette cohésion d'équipe-là, être prêt. Puis écoutez, le style, le ton, nous, là, va falloir, là, pourquoi mon préambule, là, va falloir qu'on commence à parler, là, des défis qui touchent, là, les familles puis les Québécois au jour le jour. Nous, au Parti libéral, dans les dernières semaines, puis vous comprenez tout le contexte, on n'a pas eu l'occasion de nous inscrire, on n'a pas eu l'occasion de faire ce job-là, ben là, il est grand temps qu'on la fasse. Parler aux Québécois, le coût de la vie, les urgences qui débordent, et ainsi de suite, ce sera évidemment ça, les enjeux, et le style, en ce qui me concerne, M. Arcand, il sera toujours très dynamique, très soutenu, très convaincu, mais je pense qu'au niveau du ton, j'aurai l'occasion de m'améliorer un petit peu, puis d'être un peu plus, je vous dirais, tempéré, mais que voulez-vous, des fois, le naturel revient au galop, mais on voit qu'une opposition part.
OK, parce que j'ai vu à la période des questions, vous êtes plutôt le genre, disons, je dirais pas pitbull, là, mais chercher la rondelle dans le coin, on tend ce qui bouge.
Ouais, exact. Puis après ça, vous devez vous poser la question, bon, est-ce que ça a servi mon propos ou pas? Souvent, oui. Mais notre travail aussi participe à quelque part de l'indignation. Alors, il y a une façon d'être indigné, d'avoir le bon ton, puis de passer le message. En fin de course, c'est de savoir, OK, as-tu passé ton message? Puis as-tu parlé aux Québécois? Puis as-tu fait le travail de porte-parole des Québécois qui sont préoccupés par tel enjeu? Là, puis ça, il y a toujours place à l'amélioration. C'est un processus d'amélioration continue dans mon cas.
OK. Est-ce que Marie-Claude Nichols va réintégrer le caucus?
J'ai parlé hier soir à Marie-Claude. On a fixé une rencontre dimanche, donc on se parle dimanche, puis on a convenu que on allait d'abord se parler entre Cadieux, elle et moi, avec un bon café, puis c'est là que va commencer là, nos discussions.
OK, mais est-ce que la porte est ouverte, puis est-ce que vous avez l'impression, même si c'est préliminaire, qu'elle veut revenir?
Ah, écoutez, c'est clair que la porte est ouverte. Puis au-delà du fait de dire, moi, je viens d'arriver depuis hier, chef intérimaire, au-delà de dire, la porte est ouverte, assis ou nous rejoindre, non. La porte non seulement est ouverte, M. Arcand, mais je veux aller rencontrer Marie-Claude et on va avoir notre café dimanche. Puis c'est de là qu'on va partir une bonne conversation, elle et moi. Puis on verra pour la suite des choses, mais j'ai bon espoir.
Ça prouve que son expulsion et la façon dont ça s'est fait, c'était pas la méthode et l'idée du siècle, là.
C'est clair que si c'est à faire, ça serait pas de même, M. Arcand, c'est clair.
Puis vous allez lui confier des dossiers, j'imagine, dans une opposition cabinet fantôme.
Vous comprendrez, je vais pas. Puis je me suis entendu avec Marie-Claude, on va pas commenter plus avant que cela, mais il est très clair que la réintégration de Marie-Claude irait de pair avec des responsabilités, des fonctions, là, très, 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 très clairement. Maintenant, ça fera partie des discussions, là.
Parfait. Merci, M. Tanguay. Bonne journée.
Merci, M. Tanguay.
Au revoir.
Plaisir.
Marc Tanguay, qui est maintenant le chef par intérim du Parti libéral du Québec.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Et on va se tourner vers Fabrice de Pierrebourg, qui, vous le savez, est en Ukraine. Il travaille pour le magazine L'Actualité. Et il est actuellement entre Kharkiv et la frontière de la Russie. Bonjour, Fabrice.
Bonjour, Paul.
Alors, t'as pu visiter un tout petit village.
Oui, c'est ça. Puis, un village de 5000 habitants avant la guerre, Paul, et aujourd'hui, il y en a à peine 200. Et quand on me dit qu'il y en a 200, j'ai peine à le croire parce que j'ai passé plusieurs heures dans ce village. C'est toujours, ça laisse jamais indifférent ce genre de situation. J'en ai fait plusieurs depuis le début de la guerre. Et c'est un village qui était bâti le long d'une rivière, quand même assez pauvre, avec des maisons en bois, des toits en tôle. Et quand on rentre là-dedans, dans ces rues en terre, il y a comme un silence qui est vraiment oppressant. C'est juste à peine troublé par le bruit de l'artillerie ukrainienne qui continue de tirer vers la zone russe, vers la frontière. Et les seules personnes qui restent là-dedans, ben, c'est toujours la même chose. Ce sont des personnes âgées, beaucoup de vieilles femmes. Et beaucoup sont effrayées, d'ailleurs. Ils veulent pas parler. Mais j'ai pu discuter avec quelques-unes, dont une qui est restée là tout le temps. Elle a vu les Russes arriver le premier jour de l'invasion, au mois de février, parce qu'on est à quelques kilomètres de la frontière russe. Elle dit se sont installés là. C'était une troupe d'infanterie. Ils ont installé leur quartier général dans l'église orthodoxe. Et puis la première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils essayaient de repérer les maisons où les gens avaient un peu d'argent, évidemment, pour les piller. Donc elle dit, ils ont beaucoup pillé les maisons, ils ont pillé les magasins. Puis elle nous montrait, là, on lui parlait sur ce qui était la place du village avant. Puis elle me disait, imaginez un petit peu avant la guerre, là, et autour de nous, effectivement, il y avait des magasins qui sont détruits, l'église est détruite, la poste est détruite, l'église, enfin, la petite clinique est détruite. Il n'y a plus rien. Elle dit, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, mais elle veut pas quitter parce que elle sait pas où aller, quoi. Donc elle attend. Heureusement, elle dit Dieu merci, moi ma maison n'a pas été abîmée par les bombardements, parce qu'après cette zone-là a été reprise par les Ukrainiens plus récemment. Et à chaque fois, quand ces villages se retrouvent évidemment dans les zones de conflit, bah, ils se prennent des obus, puis des tirs de mortier, des missiles des deux protagonistes. Et on est tombé aussi sur une équipe d'enquêteurs, parce que ça c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours le même processus. Les Ukrainiens reprennent du territoire. Et après, il y a des enquêteurs qui arrivent, des policiers de la police criminelle, avec des procureurs, et ils sont là pour documenter tous les crimes qui ont pu être commis pendant cette occupation russe, que ce soit les destructions de maisons, destructions d'infrastructures publiques, mais aussi, évidemment, plus tragiquement, les exécutions, les meurtres, la torture. Il y a un procureur qui nous expliquait qu'ils avaient découvert jusqu'à présent, dans toute la région de Kharkiv, 22 endroits qui servaient de chambres de torture, où les soldats ukrainiens, même les civils qui étaient accusés peut-être de collaborer, de refuser de collaborer finalement avec la Russie, même des étrangers, des étudiants pays étrangers, étaient torturés à ces endroits. Donc c'est toujours assez particulier, quoi.
Et je pense, sauf erreur, qu'il y a eu quand même des alertes au cours de la nuit, là, et on sent, même si il y a peu de gens dans le village, disons cette tension là qui est toujours présente.
Oui, il y a eu les derniers bombardements à Kharkiv, ça remonte à quelques jours et on s'en est parlé il y a deux jours. Mm-hmm. En ce moment, les Russes mettent beaucoup de pression sur les infrastructures énergétiques. Ils essayent d'affaiblir l'Ukraine avant l'hiver, donc de couper l'énergie électrique, avec en conséquence l'eau, tous les systèmes d'égout, etc. et tout. Et donc à Kharkiv, c'était ça les derniers bombardements. Et cette nuit, il y a eu 4 alertes. Il s'est même pas passé une heure entre chaque alerte. Moi, j'en ai compté au moins 4 entre minuit et 5 heures du matin. Et à un moment donné, d'ailleurs, la sirène s'est mise à sonner à minuit. Et je dirais, même pas 30 secondes plus tard, on a entendu 2 déflagrations, mais qui semblaient assez lointaines. Et on nous a dit, ah non, c'était juste en périphérie de Kharkiv. Mais j'ai pas réussi à savoir quelle était la cible et qu'est-ce qui s'était passé cette nuit. Mais la guerre est toujours là, Paul. Comme je disais tout à l'heure, on entend l'artillerie sortante, donc ukrainienne. Et puis, malheureusement, aujourd'hui, un autre exemple tragique, c'est il y a 2 ans, 2 jeunes adolescents qui ont ramassé un objet en plastique près de Kharkiv, puis c'était une mine antipersonnelle jetée là par les Russes, et ils ont été grièvement blessés. Il y a 2 jours, c'est 2 employés qui réparaient les routes près de Kharkiv qui ont été tués quand leur véhicule est passé sur une mine.
Fabrice, évidemment, toujours le rappel de la prudence. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Fabrice de Pierrebourg qui nous parlait en direct de l'Ukraine.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Cette guerre, on le dit avec Jean-François Lépine, dure depuis maintenant 8 mois. Et nous sommes aujourd'hui, 11 novembre, jour du souvenir, et c'est le moment de se rappeler. Comme invité, Dave Massicotte, vétéran des Forces armées canadiennes. Il a fait partie, donc, des Forces armées de 2002 à 2016, ce qui veut dire qu'il a été déployé notamment en Afghanistan et aussi en Haïti lors du séisme. Monsieur Massicotte, bonjour.
Oui, bonjour.
D'abord, peut-être nous parler un peu de vous. Qu'est-ce qui vous a amené à aller vers les Forces armées canadiennes?
Ben, j'étais très jeune, j'avais 17 ans lorsque j'ai joint les Forces canadiennes. Et c'était mon grand frère qui était un peu une inspiration pour moi. Lui était dans la marine canadienne, il m'envoyait des cartes postales un peu de toutes les places qu'il visitait, puis je trouvais ça fantastique, puis j'avais envie de voir du pays. Donc c'était vraiment je voulais faire quelque chose, j'avais envie de liberté, donc je me suis enrôlé au début dans la marine canadienne pendant 3 ans. J'ai voyagé en masse, j'ai été servi en masse pour cette fonction-là de voyager partout. Puis ensuite, j'ai quitté les forces après le premier contrat de 3 ans, puis j'ai rejoint ensuite dans l'infanterie, dans le 22e régiment, pour un autre 10 ans avec lequel j'ai servi. Donc, avec la marine canadienne, j'ai fait le Golfe Persique. Ensuite, avec le 22, j'ai été en Afghanistan en 2009 et ensuite en Haïti après le tremblement de terre en 2010.
Il y a un soldat retraité là, qui m'a dit un jour, lui aussi avait les mêmes motivations, c'est-à-dire voyager, se déplacer dans le monde. Mais il dit, quand on le fait avec l'armée, on s'aperçoit rapidement là qu'on est loin de la carte postale. Là, le travail, le métier de soldat, on a à le faire.
Oui, ben c'est toujours relatif à notre expérience dans le cadre de déploiement. C'est sûr qu'aller en Afghanistan, je suis pas allé là pour prendre des cafés. J'étais déployé avec une équipe de combat, bien entendu, dans la région de Panjawi. Donc, c'est sûr que j'écrivais pas des cartes postales à cet endroit-là. Mais lorsque j'étais dans le Golfe Persique, tout le long qu'on a été vers le Golfe Persique, on a arrêté à plusieurs ports. Et chaque expérience de chaque déploiement est un peu différente, là, tout dépendant le cadre dans lequel, pourquoi on est déployé. Donc, oui, il y a des fois que c'est beaucoup plus difficile. Le devoir va toujours être mis en priorité, mais les expériences sont quand même assez vraies. Je vais pas dans un resort lorsque je suis déployé, je vais pas dans un club med, je vais vraiment voir la vérité d'un pays, les vrais gens, les vraies difficultés, la vraie beauté du pays.
Qu'est-ce qui vous a frappé en Afghanistan?
Une mine. Non, ce qui m'a frappé en Afghanistan, j'appelle ça le clash culturel. Lorsqu'on va à la guerre, on n'est plus régi par des règles sociales. C'est pas la même chose. Ici, je me lève le matin, si je prends ma voiture, faut que je m'assure de pas enfreindre les limites de vitesse, parce que sinon je vais avoir un ticket. Faut que je fasse sûr de payer mes impôts à temps. Parce qu'on va à la guerre, c'est nos soucis, les conséquences de nos soucis ou les règles qu'on a à suivre, c'est plutôt les conséquences, on suit pas les règles, c'est la mort, c'est fatal. Donc c'est très très primitif comme façon de vivre. Si on se promène, faut regarder les mains des gens pour être sûr qu'ils ont pas d'armes, faut qu'on soit sûr de regarder les gens qui aient une certaine distance aussi pour pas que ce soit des bombes humaines. Donc, c'est sûr que de se préparer à ça, d'aller dans un cadre de déploiement de combat et de revenir dans cette espèce de matrice sociale-là, de règles, de société qui nous entoure de tous les jours, c'est un clash culturel. C'est très, c'est spécial.
Vous avez perdu un collègue, je pense, qui a sauté sur une mine.
Oui, le 17 septembre 2009, on a roulé mon véhicule avec ma section, on a roulé sur un engin explosif. Et ça a causé la mort du chauffeur. Donc, oui, aujourd'hui, en jour du souvenir, je sais que beaucoup de mes collègues sont à la tombe du caporal Couturier en ce moment. Donc, j'ai une pensée pour eux autres. J'ai aussi une pensée pour tous les soldats défunts qui ont été à cette guerre-là. Puis aussi à tous les soldats, en vrai, qui ont fait toutes les guerres.
Et au retour, vous avez eu reçu un diagnostic de stress post-traumatique. Comment justement se fait le retour là, quand on était témoin d'événements comme ça, puis que on revient à la vie dite normale?
C'est assez particulier. Ça y va progressivement. C'est sûr que le stress post-traumatique, il y a beaucoup de stigmas qui vont autour de ça. C'est pas une maladie qu'on pogne. C'est pas quelque chose qui s'attrape, qui est de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle post-mortem. C'est notre système nerveux fonctionne d'une certaine façon depuis qu'on est né. Comment qu'on deal avec certains, comment qu'on gère certaines crises, certains traumas avec des émotions comme l'impuissance, l'abandon. C'est lorsque on fait face à ces nouvelles réalités-là de la vie, lorsqu'on revient.
qu'on commence à avoir des changements. Et certaines personnes s'adaptent très bien. Je connais pas vraiment de collègues qui sont revenus d'une mission de combat qui sont à 100%, qui ne sont pas atteints à 100%. J'ai vu tout le monde changer, mais certains d'entre eux s'adaptent très bien, par exemple, puis ils sont capables de continuer leur carrière sans problème. Certains d'entre eux autres, ça les frappe très rapidement. Où est-ce qu'ils vont avoir des problèmes? C'est plus de drogue, de santé mentale. Moi, ça m'a frappé progressivement. J'ai eu mon diagnostic quand même assez de bonheur. J'ai continué ma carrière. Mais à un moment donné, il a fallu que je mette un terme à ma carrière. Et on essaie de se recycler après. On essaie de faire de quoi. Puis c'est très difficile. Pour ma part, j'ai parti à un gym à Terrebonne où est-ce que je donne du jiu-jitsu brésilien. J'ai des amis qui se sont relancés dans les dans la vente. Il y en a qui ont de la misère à se recycler, puis c'est normal parce que c'est un peu une crise identitaire. Si on est militaire, on a notre identité militaire. On est géré par des vertus, le devoir, la loyauté, l'intégrité, le courage. Et lorsqu'on revient à la vie civile, ces vertus-là ne s'appliquent pas toujours au métier, au corps du métier qu'on veut faire. La plupart des métiers sont voit être profitable. On veut avoir de l'argent au bout de notre métier. Mais lorsqu'on est dans l'armée, on est vraiment lidé par des vertus. Donc c'est
différent.
C'est dur de s'adapter, mais ça se fait.
M. Mascotte, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous. Bonne journée à vous.
Ça fait plaisir. Au revoir.
Dave Mascotte, qui a été donc membre des Forces armées canadiennes de 2002 à 2016.
L'essentiel de Paul Arcand.